Alors, je voudrais remercier Gaël parce qu'il a fait une belle introduction pour moi. Moi, je vais vous parler plus spécifiquement de Groenland. Je le dis Groenland parce que je suis belge d'origine, donc je le maintiens. Je dirais 70, 80, 90, 90, pardon, à la place. Parfois, je ferai des lapsus. Évidemment, cette première image, elle est un peu provocatrice, hein. Typique, hein, on parle du changement climatique et voilà où se trouve l'université de Luxembourg. On est en train, en fait, pour être positif, de transformer ce qui était une entreprise polluante en une maison du savoir et d'arrêter toute cette industrie polluante. Moi, je vais me poser du côté des gens qui mesurent. On l'a dit ce matin, mesurer le changement climatique, c'est extrêmement important. Je vais me placer du point de vue d'un exemple de la recherche qu'on fait au Luxembourg, puisque je viens de l'Université du Luxembourg, et je vais vous montrer quels peuvent être les impacts sur les résultats, par exemple, que vient de présenter Gaël. Il a dit que ces techniques ont des problèmes. Je pense qu'il ne faut pas se voiler la face. Elles ont un certain nombre de problèmes. Ça n'empêche, la tendance, elle est correcte. Mais pour l'avenir, on aimerait bien avoir les mesures le plus précises possible. Donc, je reviens un peu à la question que vous avez posée ce matin. Oui, on sait qu'il y a des incertitudes. Les connaissons-nous toutes? Non. Il y a sûrement des omissions, et je vais vous en montrer une aujourd'hui, qui ne va pas avoir une conséquence énorme sur le résultat global, mais qui, si on veut faire les choses de manière très pointue, vont améliorer les choses. Alors, voici le plan. Je vais un peu vous raconter qu'est-ce qu'on sait concernant les variations de masse actuelles au Groenland, et je vais vous montrer en quoi les observations GPS et gravimétrie peuvent être contribuées. Je me place au sol maintenant. Tout à l'heure, vous avez des images qui viennent du ciel. Je vais vous parler un petit peu des problèmes qu'elles ont. Nous avons des problèmes aussi, hein, mais ils sont différents et la combinaison des deux ont un certain nombre d'avantages. Mesures gravimétriques sont des mesures au sol aussi, et je conclurai en vous disant ce qui se passe dans la partie sud-est de l'île. Alors, je ne vais pas passer beaucoup de temps, vous savez tous, hein, augmentation du niveau de la température moyenne de 0,8 degrés Celsius, blablabla, d'autres en parleront. On dit que ça vient de l'augmentation des gaz à effet de serre, ce n'est pas le sujet de mon exposé. Le problème, c'est que la température a augmenté, donc s'il y a un réchauffement du climat, on va avoir que les... Alors, il y a une histoire de... Moi, je suis professeur de climatologie, les calottes, c'est réservé... des choses réduites de 50 000 km² sur les horizons, il faudrait dire l'énalysis pour le Groenland, mais c'est un mot trop compliqué et peu connu. Et bien, si la température augmente, vous allez avoir l'expansion de l'eau, l'expansion thermique, c'est très important, et vous allez évidemment avoir un transfert de l'eau qui va fondre, je vais dire calottes aussi, c'est plus simple, les calottes. Animation. On a ici un certain nombre de scénarios, on ne va pas rentrer dans le détail, mais les plus grandes contributions, et là vous voyez un certain nombre de scénarii que l'on est différent. Eh bien, le plus important, c'est l'expansion thermique, les glaces continentales et le Groenland. Si vous regardez ici en détail, ça c'est l'expansion thermique, les glaces continentales, ça c'est une surprise qu'on a eu dernièrement. Produisent plus que ce qu'on pensait. Quel que soit le scénario, c'est plus ou moins le même trio de tête, et donc nous allons nous occuper de Groenland. Voici évidemment ce qui se passe si vous mettez l'élévation, hein. On va se mettre du côté américain, les Caraïbes, c'est la catastrophe évidemment, comme Canaveral, on peut oublier. Évidemment, on a une plus grande, ça ce sont les inondations, donc les parties qui viendront immerger, on va avoir évidemment plus d'inondations. Évidemment, on peut prendre l'attitude de dire on ne peut rien y faire, mais il faut s'y préparer. Et entre autres, pour savoir quand on arrivera à cette image-là, à quelle vitesse va fondre Groenland, avec une précision la plus grande possible. Alors que savons-nous du Groenland? Eh bien, il y a eu l'altimétrie laser aéroportée, on en a parlé, Gaël en a parlé bien gentiment. On peut mesurer, alors à l'époque on n'a pas de satellite, donc ça dépend en été, etc. C'est des couvertures assez inhomogènes dans le temps et dans l'espace. L'altimétrie satellite depuis 2003, mais bon, ISAT, je connais un spécialiste ici, mais je pense que le laser ne fonctionne qu'un mois par an, ou
fait, il mesure le, quelque sorte le volume, mais le problème, c'est qu'il faut la densité, parce qu'on veut la masse, et c'est ça qui est important. Et donc, on fait des hypothèses sur les densités de glace. Je ne vais pas vous faire un cours, c'est extrêmement compliqué, hein, ça se compacte, il y a différents stades. Donc, si vous mesurez la hauteur de la glace et pour en déterminer la masse complète, il faut avoir un profil de la densité, c'est extrêmement compliqué. Donc, qu'est-ce que... vous avez le satellite Grace, on vient d'en parler, hein, Tom et Jerry, vous n'avez jamais entendu cela, je peux le dire. Alors, très belles images, très convaincant, ça descend, on voit le cycle annuel, 286 milliards de tonnes par an. Vous avez vu les belles images, mais je suis désolé, mais ils les ont arrangées, hein, parce que Grace, il est très myope, hein, il a un pixel de 100-200 km de spéciale. C'est comme si, voilà, je vous parlais comme ça, je ne vois plus rien. Donc, et même dans un pixel, on a parfois un mélange entre l'océan et le continent. Je ne sais pas comment. Ce sont des magiciens. Non, je suis un scientifique, je les protège, c'est pas ça, mais il faut dire les choses comme elles tombent quand même. Les dimensions du pixel sont énormes. Vous imaginez, hein, dans un satellite, il faut calculer son orbite, il faut savoir où il faut calculer les. Parce que si le Groenland augmente, et il a une attraction gravimétrique qui va influencer sur l'orbite de Grace aussi. Satellite. Donc, c'est des choses extrêmement complexes, hein, pour faire ça. À la fin, on ne sait plus où sont vraiment les erreurs. Un modèle, il y a beaucoup de modèles, on n'a pas d'erreurs. Et c'est de ça dont je vais parler. On n'a aucune idée de quelle est leur contribution à la solution finale. Une fois que j'insiste, hein, je ne remets pas en question le changement climatique et les variations. Je veux simplement dire que je dois essayer de voir de manière plus précise. Ces variations. On a aussi que Grace, ben, il donne la pesanteur, variation de gravité, en fait, il ne donne pas une variation de masse. Il faut le calculer. Donc, il y a du problème, hein, aussi qui se pose. Et en plus, comme l'avait dit Gaël, pour d'autres raisons, la pesanteur change. Donc, au Groenland, les bonnes raisons, il y a 30 000 ans, il y a plus de glace qu'aujourd'hui. Le Groenland s'est affaissé. Ça fond depuis 30 000 ans, il remonte doucement, comme fait Stockholm qui remonte de quelques centimètres, un peu moins d'un centimètre par an. Hein. Il y a 30 000 ans, il y avait 3 km de glace au-dessus de Stockholm. Stockholm remonte d'un centimètre, un peu moins d'un centimètre par an. Et ça crée un signal gravimétrique dont il faut enlever la signature dans les mesures. Et ça pose ce problème-là auquel je vais m'adresser. Donc voici, aujourd'hui, on modélise ça. Il n'y a pas beaucoup de modèles. Qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent une histoire de la glace. Alors, bonne chance. Histoire de la glace. Vous imaginez les incertitudes. Hein. Il faut refaire des calottes, etc. Mais ça vous dit ce qui se passe à l'endroit où on fait la calotte, ça ne vous dit pas ce qui se passe de l'autre côté. Hein. Et il faut aussi avoir plus que ça. Mais quand vous enlevez une masse d'un objet, l'objet il va remonter doucement. Mais ça va dépendre, ça c'est sur de longues périodes, on appelle ça un phénomène viscoélastique. Il ne le fait pas instantanément, il va le faire doucement. Et ça dépend des propriétés viscoélastiques de la Terre. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, on ne les connaît pas très très bien. On a la chance. Ça a peu d'influence, mais quand même. Alors on va faire ma question. Alors pourquoi pas, bon, pour ceux qui connaissent Charcot, hein, il avait le bateau, pourquoi pas, qu'il allait sur le Groenland, je crois qu'il est. Il a coulé au Groenland d'ailleurs, si je m'abuse. Voilà. Et donc, au lieu de mesurer de la manière en fait, de manière complémentaire, on va se baser sur la théorie élastique de la déformation manière. C'est-à-dire que si vous retirez soudainement, comme ça se passe maintenant, une charge du Groenland, le Groenland remonte. Donc les vents moyens des mers montent, et là, pour le Groenland, ils sont combien passés parce qu'ils vont surmonter parce qu'on a enlevé une certaine charge. Et c'est très simple, ce déplacement, si on peut mesurer le déplacement de cette remontée, on va obtenir le poids. C'est comme quand vous allez sur la balance de vos grands-parents, vous mesurez votre poids, vous avez le compresseur à ressort, et on va mesurer combien de compresses, on sait votre poids. Si je me recule la balance, eh bien on sait quel était le poids qu'il y avait sur la balance. Et c'est exactement le principe qu'on va utiliser en mesurant les variations de hauteur sur le bord du Groenland, parce qu'évidemment il faut se trouver sur le du rocher, pas sur la glace. Alors voici ce qu'on a, l'expérience qui était proposée. On met des récepteurs le long de la côte. On va mesurer les déplacements. Et donc, vous faites une erreur, si vous dites que tout ça est lié à la fonction publique, vous faites une erreur parce que vous n'avez pas pu dissocier les choses. Soit dit en passant, je veux vous montrer en 95-96, on a mis les premières stations, les deux premières stations. Depuis lors, les Américains en ont mis 50. Et puis, c'est la déduction monolithique, vous pouvez le faire, il y en a 10 qui a participé au Luxembourg. C'est notre contribution au changement climatique, entre autres, à l'été du changement climatique. Donc, c'est ce que je vous raconte ici, que le déplacement élastique est de la fonte actuelle et le viscoélastique est dû au post-glaciaire. Alors, on a un problème, comment les séparer? Eh bien, il y a une solution relativement simple. Il faut faire des mesures GPS et gravimétriques conjointes. Et pour ça, il y a un papier. Quand on... Souvent, on dit, moi, je dis aux jeunes, allez à la bibliothèque. Hein. Vous allez une demi-heure à la bibliothèque, vous allez gagner 10 jours de travail. Hein. Le gars a déjà résolu le problème en 1995. Il a montré que si on fait des mesures de variation du déplacement, le début, c'est le déplacement des G, c'est la variation de G, on peut obtenir le signal post-glaciaire. Donc si je l'ai, je peux l'éliminer de mon signal total et avoir la déformation actuelle et la variation de masse actuelle. Évidemment, notre technique est là, elle est complémentaire à Grace. Grace a des grandes longueurs d'onde, on va être à plus petite longueur d'onde, puisque l'on va échantillonner plus localement. Alors, oublions les maths, on n'est pas là pour ça. Il y a un très très bon papier que vous pouvez trouver ici, où on vous explique comment on fait. Bon, ça, c'est pas de moi, hein. Yes, we can do it, yes. C'est pas de moi, c'est Obama, évidemment. C'est possible, donc croyez-moi, on peut le faire. Et voici l'expérience que nous avons réalisée. C'est un projet qui a été financé au tout début par la NASA. C'est amusant, hein, la NASA finance parce qu'ils font du satellite, mais ils veulent des preuves que ça fonctionne au sol. Une fois que vous avez un satellite qui vole au-dessus de la Terre, vous ne pouvez plus l'étalonner, vous ne pouvez plus rien faire. Il faut des mesures au sol pour contrôler ce qu'on fait. Alors on a installé une première station ici à Kellyville. Il fallait être près des aéroports et l'autre station à Kourou. Et en fait, la mesure gravimétrique est intégrante. Elle va recouvrir à peu près la partie sud de Greenland. Alors, combien de temps faut-il pour arriver à des résultats? Eh bien, ça, c'est pour vous donner un peu une idée des précisions qu'on a aujourd'hui en géodésie. On peut mesurer la vitesse de déplacement avec une précision de 1 mm par an si on a 4 à 5 ans de mesure. Ça, c'est là ce qu'on fait aujourd'hui, les géodésiens comme moi. On s'occupe de variations millimétriques sous des dizaines d'années. Et elles sont significatives. En gravimétrie, on peut mesurer, alors ça ne vous dit rien, le microgal, je veux simplement vous dire, c'est 1 milliardième de G. Donc on mesure sur le terrain avec 9 décimales. Et si on combine tout ça, on voit qu'il faut à peu près une dizaine d'années pour avoir des résultats. Comment on mesure G? Eh bien voilà, c'est tout ça, on se rappelle le BND, on laisse tomber un objet, cette fois-ci on le fait dans le vide avec du laser, une horloge atomique, tout ce que vous voulez. Et on va mesurer à 10-9 de G. Ça veut dire que si un inuit, pendant que je dors la nuit, il va déplacer mon gravimètre de 3 mm vers le haut, je le saurai le lendemain, parce que la valeur de G va être modifiée. Petit clin d'œil à Luxembourg, ces instruments sont tellement précis que la seule manière de contrôler qu'ils fonctionnent bien, c'est de les étalonner. Et chance pour moi, ça se fait au Luxembourg. Ça se fait à Wolferdange, dans une galerie désaffectée. Et vous pouvez voir que j'ai beaucoup de chance. Mon gravimètre, il est juste au milieu. Bah, c'est clair. Moi qui étais l'organisateur de la comparaison. Non, toujours est-il, ça vous donne une idée de dispersion. Alors les observations gravimétriques, on en a fait dans plusieurs stations, mais aujourd'hui je ne vous parlerai que de ceci. Les autres sont intéressantes, mais on est encore en train de travailler. Et en fait, je m'intéresse à celle-là parce que Kourou-Souk, c'est le seul endroit où on n'a pas d'évidence géologique d'effet post-glaciaire. Donc on n'a aucune idée, on ne sait pas comment les modèles ont été faits, on a dû faire des incroyable. Et voici les mesures. Ça, c'est le GPS. Vous voyez très clairement que le Groenland remonte. C'est clair. On enlève de la masse, tout le monde remonte. On a converti ici les valeurs de la pesanteur en une valeur de déplacement. Et vous voyez que ça ne colle pas. Pourquoi ça ne colle pas? Parce qu'on a utilisé la théorie élastique. Donc la différence entre les deux, c'est l'effet post-glaciaire. Et il faut donc l'éliminer dans le GPS. Alors là, vous voyez ces deux données qui sont complètement... aberrantes, c'est pas moi qui les ai faites, c'est les Américains. En fait, il y a une bonne raison à ça. Si vous regardez, en 1998, ils ont construit, notre station est là, ils ont construit un hôtel juste à côté, ce qui est complètement aberrant en Guinée. On s'est mis au milieu de nulle part, et je venais 2 ans après, vous avez un hôtel qui est construit de qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Eh bien là, j'ai fait un peu de franglais. On va comparer avec les modèles actuels. Vous avez plusieurs modèles, plusieurs hypothèses, et vous voyez que tous ils donnent une valeur négative de moins 1,5 mm par an. Eh bien, cela suggère que lorsque les gens prennent du graisse et qu'ils corrigent le modèle post-glaciaire, eh bien, à certains endroits, ils se trompent. Au lieu d'enlever du signal, ils en remettent des extra. Donc, il faut être très, très prudent. Ça ne changera rien sur la tendance générale. Si on va avoir des mesures extrêmement précises, il faut tenir compte de ça. Donc c'est un petit peu... Alors, très intéressant, je n'irai pas plus loin, vous vous demandez, mais pourquoi c'est si différent des modèles? Eh bien, notre interprétation actuelle, et qui demande encore plus d'investigation, c'est que Kulusuk est près de l'Islande, un point chaud, et il semblerait que la viscoélasticité en dessous de cette station soit extrêmement différente de ce à quoi on s'attend, et extrêmement différente évidemment de ce qui a été mis dans les modèles. Et ça augmente la complexité des choses. Résumé, je pense qu'il y a à discussion le Groenland fond. Comprendre toute variation va nous aider à comprendre le moyen lunaire, et bien on en parlera après. Et je voulais vous montrer que la géodésie, c'est quand même extraordinaire. On peut mesurer aujourd'hui les effets qui ont été générés il y a 30 000 ans et qui nous influencent toujours. Et on peut en séparer les effets actuels, les effets du passé. Alors j'adore cette.